Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Alors, la semaine dernière, Contre-Histoire vous a présenté Malala. On retrouve Malala aujourd'hui, c'est pourquoi l'émission s'appelle Malala 2. Voir comme ça pour commencer, on va voir qu'est-ce que c'est encore que la vie des Pachtounes et en particulier des femmes Pachtounes. Alors il y a quelques phrases particulièrement significatives que je pioche comme ça et puis après on va re-rentrer dans l'histoire. Alors qu'est-ce qu'on disait aux jeunes filles? On leur disait le mariage fait partie de la vie. « Sois gentille avec ta belle-mère et ton beau-père. Ils te traiteront bien. Prends soin de ton époux et sois heureuse. » Il y avait parfois des mariages avec de grands banquets qui duraient des jours et pour lesquels les familles s'endettaient ou se ruinaient. Les mariés portaient de magnifiques vêtements et étaient drapés d'or, de colliers et de bracelets offerts par les deux familles. Il paraît que Benazir Bhutto tenait à ne porter que des bracelets en verre à son mariage, pour donner l'exemple. Les femmes du village, elles ne pouvaient ni côtoyer ni parler aux hommes qui n'étaient pas de leur famille. « Je portais des vêtements plus à la mode, » nous dit Malala, « et je ne couvrais pas mon visage, même après la puberté. L'un de mes cousins s'en offusqua et demanda à mon père, « Pourquoi votre fille n'est pas voilée ?» Il répondit, « C'est ma fille, et toi, occupe-toi de tes affaires. » Mais certains membres de la famille qui craignaient le « qu'en dira-t-on » déclarèrent que nous contrevenions au « Pachtoun Wali », donc à la règle de vie Pachtoun. « Je suis très fière d'être Pachtoun. » Mais parfois, je trouve notre code de conduite très discutable, notamment en ce qui concerne la condition féminine. Une dénommée Khalida, qui travaillait pour nous et était mère de 3 fillettes, m'a raconté sa tragique histoire. Elle n'avait même pas 10 ans quand son père l'a vendue à un vieil homme qui avait déjà une épouse, mais qui en voulait une plus jeune. Quand des filles disparaissent, ce n'est pas toujours parce qu'elles sont mariées. Il y avait une jolie fille de 15 ans, appelée Sima. Tout le monde savait qu'elle était amoureuse d'un garçon. Et parfois, quand ils passaient non loin, elle le regardait dessous ses longs cils noirs. Dans notre société, une fille qui flirte avec un jeune garçon apporte la honte sur sa famille. Mais un homme a tous les droits. On nous a annoncé qu'elle s'était suicidée. Mais nous avons fini par apprendre que c'était sa famille qui l'avait empoisonnée. D'après la coutume du soir, une fille peut être cédée à une autre tribu pour résoudre un conflit. C'est officiellement interdit, mais elle est encore pratiquée. Dans notre village, une veuve, Soraya, avait épousé un veuf d'un autre clan, en conflit avec sa famille. Personne ne peut épouser une veuve sans la permission de sa famille. Quand les membres de la famille de Soraya apprirent cette union, ils se fâchèrent. Ils menacèrent la famille du veuf jusqu'à ce qu'une jerga des anciens des deux villages soit convoquée pour résoudre le différend. Le jerga décida que la famille du veuf devait être punie en cédant sa plus belle fille à l'homme le moins mariable du clan rival. Le garçon n'était bon à rien, et si pauvre que le père de la fille dut payer tous les frais. Pourquoi gâcher la vie d'une fille pour résoudre une dispute dans laquelle elle n'a rien à voir, et là où elle n'est que réduite à l'état de monnaie, on peut dire. Voilà, les filles qui sont une monnaie. Quand je m'indignais auprès de mon père, il me répondit que la situation était pire en Afghanistan. L'année de ma naissance, un groupe appelé les Talibans, mené par un mollah borgne, avait pris le contrôle du pays et incendiait les écoles de filles. Il forçait les hommes à se laisser pousser une barbe longue comme une lanterne et les femmes à porter la burqa. C'est comme d'être enfermé à l'intérieur d'un volant de badminton géant, avec une ouverture grillagée en guise de lucarne. Par beau temps, c'est un four. Au moins, nous n'étions pas obligés de porter cela. Les talibans, disait-il, avaient même interdit aux femmes de rire à haute voix ou de porter des chaussures blanches, car c'était la couleur des hommes. Ils les emprisonnaient et les battaient simplement parce qu'elles avaient les ongles vernis. J'en frémissais. Je lisais des livres comme Anna Karénine ou les romans de Jane Austen, mais j'avais foi dans les paroles de mon père. Malala est libre comme l'oiseau. Quand j'entendais les atrocités qui avaient lieu en Afghanistan, j'étais fière de vivre dans le Swat. Ici, une fille peut aller à l'école, avais-je l'habitude de dire. On se sent libre quand on ne connaît pas le monde extérieur. Les talibans étaient juste à nos portes. C'étaient des pachtounes comme nous. Pour moi, la vallée était un lieu ensoleillé et je ne voyais pas les nuages s'amonceler derrière les montagnes. Mon père me répétait « Je protégerai ta liberté, Malala. Ne cesse pas de rêver. » Il me cite le Mahatma Gandhi. La liberté n'a pas de valeur si elle ne comprend pas la liberté de faire des erreurs. Et aussi Abraham Lincoln. Enseignez-lui, si vous pouvez, les merveilles des livres, mais laissez-lui un peu de temps libre pour considérer le mystère éternel des oiseaux dans le ciel, des abeilles au soleil et des fleurs au flanc d'un coteau vert. À l'école, enseignez-lui qu'il est bien plus honorable d'échouer que de tricher, disait donc Abraham Lincoln. Je crois que tout le monde fait une erreur une fois dans sa vie. L'important est la leçon qu'on en retire. C'est pour cela que notre code Pashtunwali me pose des problèmes. Nous sommes censés nous venger des torts qui nous sont faits, mais cela n'a pas de fin. Si un homme est tué ou blessé par un autre, la vengeance rétablit ce que nous appelons le nang ou l'honneur. Cela peut être obtenu en tuant n'importe quel mâle de la famille qui a causé le tort. Ensuite, celui-ci devra réclamer vengeance, et ainsi de suite. Il n'y a aucune limite dans le temps. L'un de nos proverbes dit « Le Pashtoun se vengea au bout de 20 ans, et un autre déclara que c'était trop tôt. » Un autre dit encore, « La pierre du pachtoun ne rouille pas dans l'eau, ce qui signifie que nous n'oublions ni ne pardonnons jamais. C'est aussi pour cela que nous utilisons rarement le mot « merci », « manana », parce que nous estimons qu'un pachtoun n'oubliera jamais le bien qu'on lui a fait et le rendra tôt ou tard, tout comme le mal. La bonté ne peut être rendue que par la bonté, et un merci ne suffit pas. Beaucoup de familles habitent dans des communautés fortifiées dotées de tours de guet pour surveiller les ennemis avec qui elles sont en conflit. Nous connaissons beaucoup de victimes de telles querelles. Exemple. Cher Zaman était un ancien camarade de classe de mon père qui obtenait de meilleurs résultats scolaires que lui. Mon grand-père et mon oncle empoisonnaient mon père à coups de « Tu n'es pas aussi fort que cher Zaman » à tel point qu'il rêvait qu'un rocher se détache de la montagne et vienne l'aplatir comme une crêpe. Mais cher Zaman n'alla pas à l'université et finit vendeur à la pharmacie du village. Sa famille se trouva alors en conflit avec des cousins à propos d'un lopin de forêt dont ils se disputaient la propriété. Un jour, avec deux de ses frères, il fut victime d'une embuscade tendue par son oncle et plusieurs hommes, et les trois frères furent tués. Étant un homme respecté dans notre communauté, mon père était souvent appelé comme médiateur dans les conflits. Il ne croyait pas au badal, la vengeance, et essayait de démontrer que les deux parties pâtissaient de la violence et qu'il valait mieux dépasser ce conflit. Il y avait dans notre village deux familles qu'il ne parvenait pas à convaincre. Leur rivalité était si ancienne que personne ne se rappelait leur origine, probablement à cause d'un simple affront, étant donné que nous sommes un peuple au sang chaud. D'abord, un frère de l'un agressait l'oncle de l'autre. Et puis c'était l'inverse, et cela dévorait leur vie. Notre peuple estime que c'est un bon système et que notre taux de criminalité est plus bas que dans les régions non pachtounes. Mais à mon sens, si quelqu'un tue votre frère, il ne faut pas le tuer ou tuer son frère, mais plutôt l'instruire. Je suis inspirée par Bacha Khan, Khan Abdul Ghaffar Khan, l'homme que nous appelons le Gandhi de la frontière et qui a introduit la philosophie de la non-violence dans notre culture. Il en est de même pour le vol. Certains, comme moi, se font prendre et jurent qu'ils ne recommenceront jamais. Oui, parce que Malala a raconté un petit peu avant que, comme tous les enfants, un jour elle s'est mise à chaparder, parce qu'on lui avait volé un faux téléphone portable. Pour les enfants, les téléphones portables, vrais ou faux, c'est très important. Hein. Il n'y a qu'à voir l'importance que nous, on accorde aux vrais. Hein. Alors, d'autres ont déclaré que ce n'était pas grave, que l'objet du larcin était sans importance. Mais la fois suivante, ils volent davantage, et ainsi de suite. Dans mon pays, le vol n'a pas d'importance pour nos hommes politiques. Les hommes politiques, ils sont riches et nous sommes un pays pauvre, mais ils pillent sans discontinuer. La plupart ne payent pas d'impôts, mais ce n'est pas le pire. Ils obtiennent des banques nationales des prêts qu'ils ne remboursent pas et touchent des commissions sur les marchés publics qu'ils accordent à des entreprises ou à des amis. Beaucoup possèdent des biens immobiliers de grande valeur à Londres. Je ne sais pas comment ils peuvent supporter de voir notre peuple mourir de faim ou subir d'incessantes coupures de courant et des enfants obligés de travailler au lieu d'aller à l'école. Mon père dit que le Pakistan est affligé de politiciens dont le seul souci est l'argent. Il se moque que ce soit l'armée qui pilote l'avion, du moment qu'ils n'ont pas à toucher aux commandes et qu'ils n'ont qu'à s'installer en première classe, fermer le rideau et savourer la cuisine fine et le service raffiné pendant que le reste de la population s'entasse en classe économique. J'étais née après 10 ans d'une sorte de démocratie, d'alternance, entre Benazir Bhutto et Nawaz Sharif, chacun accusant l'autre de corruption, et aucun gouvernement n'arrivant au terme de son mandat, nous étions de nouveau sous la dictature. On peut comprendre pourquoi les habitants de notre province du Swat ne se réjouissent pas à l'idée de faire partie du Pakistan. Tous les 3 ou 4 ans, le Pakistan nous envoie un nouveau commissaire adjoint qui devient le plus haut représentant du gouvernement dans le Swat, tout comme le faisaient les Britanniques, naguère, dans leur colonie. Les anciens parlaient souvent avec nostalgie de l'époque du dernier Wali. En ce temps, il y avait encore des arbres sur les montagnes, des écoles tous les 5 kilomètres, et le Wali Sahib venait les visiter en personne pour résoudre les problèmes. En classe, Malala faisait la compétition avec sa meilleure amie Moniba pour obtenir les meilleurs résultats. Cette fois-ci, Moniba était première et moi deuxième. Cela n'avait pas d'importance. Lincoln avait aussi écrit dans sa lettre au professeur de son fils « Apprenez-lui à perdre avec élégance ». Et on aborde la période du 11 septembre. Le Pakistan était encore une dictature, mais les Américains avaient besoin de son appui, comme dans les années 80 contre les Russes. De même que l'invasion soviétique de notre voisin avait tout changé pour le général Zia, le 11 septembre avait changé la donne pour le général Musharraf. Désormais, il était convié à la Maison-Blanche par le président George W. Bush et au 10 Downing Street par Tony Blair. Il y avait un hic autrefois, c'était nos services de renseignement, l'ISI, qui avaient créé les talibans. Voilà le virage. Et beaucoup d'officiers avaient des relations personnelles avec eux, voire partageaient certaines de leurs croyances. Un officier de l'ISI, connu sous le nom de colonel Imam, se vantait d'avoir entraîné 90 000 talibans et même devenu consul général des talibans à Herat. Nous ne portions pas les talibans dans notre cœur, car nous avions appris qu'ils avaient démoli les écoles de filles ou détruit leurs bouddhas géants. Nous étions fiers des nôtres, mais nous autres Pashtuns n'apprécions pas que l'Afghanistan soit bombardé ou que le Pakistan aide les Américains, même s'il s'agissait de les autoriser à traverser notre espace aérien et en ne fournissant plus d'armes aux talibans. Nous ignorions à l'époque que Musharraf mettait également des pistes d'atterrissage à la disposition des Américains. Oussama Ben Laden passait pour un héros aux yeux de certains religieux. Vous pouviez acheter au bazar des posters et des boîtes de bonbons à son effigie. On disait que le 11 septembre était une vengeance sur les Américains pour ce qu'ils avaient fait subir à d'autres peuples dans le reste du monde. Mais on oubliait que les victimes du World Trade Center étaient des gens innocents qui n'avaient rien à voir avec la politique américaine et que le Saint-Coran condamne le meurtre sans équivoque. Notre peuple cherche des complots derrière tout. Musharraf annonça au pays qu'il n'avait d'autre choix que de coopérer avec les États-Unis. Le secrétaire d'État américain Colin Powell avait lancé « Vous êtes avec nous ou contre nous ?» et Musharraf d'expliquer que les Américains avaient menacé de nous faire revenir à l'âge de pierre à force de bombardement si nous leur faisions obstacle. Mais nous ne coopérions pas vraiment, car l'ISI continuait d'armer les talibans et de donner asile à leur chef. « Le chef de l'ISI pria les Américains de différer leurs attaques sur l'Afghanistan le temps qu'il aille à Kandahar demander au Mollah Omar, le chef des talibans, de lui livrer Ben Laden. Au lieu de ça, il lui proposa son aide. Ben Laden et ses hommes s'enfuirent vers les montagnes blanches de Tora Bora, dans l'est de l'Afghanistan, où il avait construit un réseau de tunnels et de grottes souterraines pendant la guerre contre les Russes. Ils s'échappèrent par ces tunnels et par les montagnes, jusque dans la région de Kouram. Nous ignorions que Ben Laden séjourna une année dans le Swat, profitant de l'hospitalité de notre Pashtun Wali. Musharraf jouait double jeu avec les Américains, prenant leur argent tout en continuant d'aider les djihadistes, que nos services de renseignement qualifient d'atouts stratégiques. Les Américains disent nous avoir versé des milliards de dollars, mais la population n'en a pas vu la couleur. Il se fit construire un manoir près du lac Rawal à Islamabad et s'acheta un appartement à Londres. De temps en temps, un haut responsable américain se plaignait que nous n'en faisions pas assez, et aussitôt, un gros poisson se retrouvait attrapé, comme Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau des attentats du 11 septembre. À moins de 2 kilomètres de la résidence officielle du chef des armées, à Rawalpindi. Cependant, le président Bush continuait de faire l'éloge de Musharraf et l'invita à Washington en disant que c'était son copain. Mon père et ses amis étaient dégoûtés. Il était évident que les Américains préféraient traiter avec des dictateurs au Pakistan. Et voilà l'histoire du Mufti qui tenta de fermer l'école de Malala, l'école que son père avait créée. En face de l'école de la rue Kourchal, où j'étais née, se dressait la maison d'un grand et séduisant mollah. Il s'appelait Goulamoula et se disait Mufti, ce qui signifie que c'était un lettré musulman et une autorité en droit religieux. Même si, comme le déplore mon père, quiconque porte un turban peut se faire appeler Maulana ou Mufti. L'école était enfin prospère et mon père construisait un impressionnant hall avec une entrée voûtée dans le lycée des garçons. Pour la première fois, ma mère put acheter de beaux vêtements et même commander des plats tout faits, comme elle avait rêvé à son adolescence dans le village. Mais depuis le début, le Mufti nous surveillait. Il regardait les filles entrer et sortir de l'école chaque jour et ça l'agaçait, notamment parce que certaines étaient adolescentes. « Le Maulana nous voit d'un mauvais œil, » dit mon père. Il avait raison. Peu après, le Mufti alla trouver la femme qui possédait le terrain de l'école et lui dit « Ziaoudine dirige une école à Ram dans votre bâtiment, » c'est-à-dire une école non religieuse. Et il apporte la honte dans le Mohalla, le quartier. Ses filles devraient respecter le Pourda. Reprenez-lui ce bâtiment et je le louerai pour y installer ma madrasa. Et si vous faites cela, vous serez payé. Et en plus, vous serez récompensé dans l'au-delà. Elle refusa. Et son fils vint discrètement prévenir mon père. Ce Maulana en a après vous. Nous ne lui céderons pas le bâtiment, mais soyez sur vos gardes. Mon père fut fâché. De même que nous disions « Un demi-docteur est un danger pour la vie d'un homme, un mollah qui n'est pas totalement instruit est un danger pour la foi », déclara-t-il. Je suis fier que notre pays ait été le premier État musulman, mais nous ne sommes toujours pas d'accord sur ce que ça signifie. Le Coran nous enseigne la sabar, c'est-à-dire la patience. Mais on dirait que nous avons oublié ce que ce mot recouvre et que l'islam se résume à faire porter la burqa aux femmes et à les obliger à rester chez elles. À présent, notre pays compte 180 millions d'habitants. 96% musulmans. Y vivent 2 millions de chrétiens, plus de 2 millions d'Ahmadis, qui, même si notre gouvernement soutient le contraire, se disent musulmans. Hélas, ces communautés sont souvent victimes d'agressions. Dans sa jeunesse, Jinnah, qui a créé le Pakistan, avait vécu à Londres, où il avait fait ses études de droit. Il voulait créer un pays de tolérance. Nous citons souvent le célèbre discours qu'il a prononcé quelques jours avant notre indépendance. « Vous êtes libre d'aller dans vos temples, libre d'aller dans vos mosquées ou tout autre lieu de culte dans cet état du Pakistan. Vous pouvez appartenir à n'importe quelle caste, observer la foi ou la religion que vous désirez. L'État n'a rien à voir là-dedans. » Mon père dit que le problème est que Jinnah a négocié un terrain et pas un État. Il mourut de tuberculose juste un an après la naissance du Pakistan. Et depuis, nous n'avons pas cessé de nous battre. Nous sommes divisés entre sunnites et chiites. Nous avons en commun les mêmes croyances fondamentales et le même livre saint, le Coran. Mais nous divergeons sur celui qui fut choisi pour mener les musulmans après la mort du prophète au 7e siècle. Le moufti, n'ayant pas réussi à convaincre notre propriétaire d'annuler notre bail, il rassembla un soir quelques personnalités et anciens de notre mohalla et les fit venir chez nous en délégation. Ils étaient 7. Quelques tablighis plus âgés, un gardien de mosquée et un boutiquier, et ils remplirent tout l'espace de notre petite maison. Mon père avait l'air inquiet et nous fit déguerpir dans la pièce voisine. La maison était si petite que nous entendions tout. Le molla, Goulamoula, prit la parole. « Je représente les oulémas, théologiens, gardiens de la tradition musulmane, les tablighis et les talibans. » dit-il, faisant référence à non pas un, mais à 2 courants de pensée religieux, afin d'avoir encore plus de poids. « Je représente les bons musulmans, et nous pensons tous que ton école de filles est haram, non religieuse et blasphématoire. Que tu devrais la fermer. Les filles ne doivent pas aller à l'école, continua-t-il. Une fille est si sacrée qu'elle devrait respecter le pourda, et si discrète qu'il n'y a pas de nom de femme dans le Coran, car Dieu ne veut pas qu'elle soit ainsi nommée. » Mon père refusa d'en entendre davantage. Le nom de Mariam apparaît partout dans le Coran. N'était-elle pas une femme, et une femme de bien qui plus est ? Non, dit le molla. Elle n'est là que pour prouver qu'Isa, Jésus, était le fils d'une femme et non celui de Dieu. C'est possible, répliqua mon père, mais je fais seulement remarquer que le Coran cite Mariam. Le moufti commençait à objecter, mais mon père en avait assez. Il se retourna vers le groupe. « Quand ce monsieur me croise dans la rue, je le regarde et le salue, mais il ne me répond pas. Il se contente de baisser la tête. » Le molla eut l'air gêné, car saluer correctement les gens est important dans l'islam. « Tu diriges une école haram, dit-il. C'est pour cela que je ne veux pas te saluer. » L'un des autres hommes prit la parole. « J'ai entendu dire que tu étais un infidèle, » dit-il à mon père, « mais je vois des Corans dans cette pièce. »« Évidemment, » répond mon père, ébahi que l'on puisse douter de sa foi. « Je suis musulman. » « Revenons au sujet de l'école, » relança le moufti, voyant que la discussion ne prenait pas le tour qu'il souhaitait. « Il y a des hommes dans le hall de l'école. Ils voient les filles entrer, et c'est très mal. »« J'ai une solution, » dit mon père. « Il y a une autre entrée, les filles peuvent passer par là. » Le molla ne fut pas vraiment ravi, car il était évident qu'il voulait que l'école ferme ses portes. Mais les anciens estimèrent que cette assurance suffisait et s'en allèrent. Mon père se douta que cela ne s'arrêterait pas là. Ce que nous savions et qu'ils ignoraient, c'est que la nièce du molla était élève chez nous. Quelques jours plus tard, mon père appela donc le frère aîné du molla, le père de la fille. Ton frère m'épuise, dit-il. Qu'est-ce que c'est que ce genre de molla? Il nous rend fous. Peux-tu nous débarrasser de lui? Malheureusement, je ne peux pas t'aider, Ziaoudine, répondit-il. J'ai des problèmes chez moi aussi. Il habite avec nous et a dit à son épouse qu'elle devait observer le pourda avec nous et que nos épouses doivent l'observer avec lui. Nos femmes sont comme des sœurs et la sienne comme une sœur pour nous. Mais ce démon a fait de notre maison un enfer. Je suis désolée de ne pouvoir t'aider. Mon père avait raison de penser que cet homme n'allait pas renoncer. Comme tous les mollahs, il s'était enhardi depuis la campagne d'islamisation du général Zia. Le général Moucharaf, à certains égards, était très différent de notre dernier dictateur, le général Zia. Bien que restant en uniforme, il portait parfois des costumes occidentaux et se faisait appeler « chef de l'exécutif » au lieu d'administrateur en chef de la loi martiale. Il possédait des petits chiens, ce que nous autres musulmans considérons comme impurs. Au lieu de l'islamisation, il entreprit ce qu'il appela une modération éclairée. Il libéra les médias, permit la création de nouvelles chaînes de télévision et l'emploi de présentatrices, tout comme il toléra certaines fêtes occidentales comme la Saint-Valentin ou le réveillon du Nouvel An. Il autorisa même un concert pop la veille de la fête nationale, qui fut diffusé dans tout le pays. Il fit quelque chose que nos dirigeants démocrates n'avaient jamais fait, même Benazir, et abolit la loi selon laquelle une femme devait produire 4 témoins de sexe masculin pour attester qu'elle avait été violée. Il nomma la première femme gouverneure de la Banque nationale et les premières femmes pilotes d'avions et garde-côtes. Il annonça que des femmes monteraient la garde devant le tombeau de Jinnah à Karachi. En 2002, Moucharaf organisa des élections pour une démocratie contrôlée. Ce furent de curieuses élections car les principaux chefs de parti, Nawaz Sharif et Benazir, étaient en exil. Ces élections amenèrent au pouvoir ce que nous appelâmes un gouvernement de mollahs. L'alliance de Matahida comprenait 5 partis religieux, dont le Jamiat Ulema J.U.I., qui dirigeait les madrassas où étaient formés les talibans. Certains surnommaient par dérision la MMA, Alliance militaire des Mollahs, et disaient que ces Mollahs n'avaient été élus que grâce au soutien de Moucharaf. Et ils avaient aussi le nôtre, parce que les Pashtuns les plus pieux condamnaient l'invasion des Américains en Afghanistan, qui avait chassé les talibans du pouvoir. Pour la gauche, c'était un cadeau empoisonné. Notre région avait toujours été plus conservatrice que le reste du Pakistan. Durant le djihad afghan, beaucoup de madrasas avaient été construites, principalement grâce à des financements saoudiens. Et les cours y étaient gratuits et avaient énormément d'étudiants. Mais depuis les attentats du 11 septembre, un militantisme nouveau était apparu. Le long des routes, je voyais parfois des bâtiments couverts de messages à la craie. « Contactez-nous pour un entraînement au djihad », lisait-on au-dessus d'un numéro de téléphone. À l'époque, les groupes djihadistes étaient libres d'agir comme bon leur semblait. Ils recrutaient des émules et levaient ouvertement des fonds. Même un directeur du lycée de Shangla se vantait que son plus grand succès avait été d'envoyer 10 garçons de 3e s'entraîner au djihad dans le Cachemire. Le gouvernement Mollah interdit les boutiques de CD et de DVD et voulut créer une police de moralité comme les talibans afghans. L'idée étant, par exemple, que l'on puisse arrêter une femme accompagnée d'un homme afin qu'elle prouve que celui-ci était de sa famille. Dieu merci, la Cour suprême s'y opposa. Mais des miliciens se chargèrent de cette tâche. Les activistes de la MMA lancèrent des attaques sur les cinémas et arrachèrent ou noircirent à la peinture les affiches montrant des femmes. Ils enlevèrent même les mannequins féminins des vitrines des boutiques de vêtements. Ils harcelaient les hommes qui portaient des pantalons et des chemises occidentales au lieu et place du chaloir-kamiz et exigeaient que les femmes se couvrent la tête. C'était à croire qu'ils voulaient faire disparaître toute trace de féminité dans l'espace public. Le lycée de mon père ouvrit ses portes en 2003. Filles et garçons étaient mélangés. Mais dès 2004, le climat ayant changé, il fut impossible d'imaginer maintenir des classes mixtes. Le moufti s'enhardit. L'un des employés de l'école déclara à mon père qu'il n'arrêterait pas de venir demander pourquoi les filles continuaient d'utiliser l'entrée principale. Il raconta qu'un jour, un employé avait accompagné une enseignante pour héler un rickshaw, c'est les transports en commun locaux, et que le Maulana avait demandé « Pourquoi cet homme l'a-t-il escorté jusqu'au dehors? Est-ce son frère ?»« Non, » répondit l'employé, « c'est une collègue. »« Mais c'est très grave !» s'écria le Maulana. Mon père donna consigne à l'employé de le prévenir la prochaine fois que le Maulana viendrait. Quand cela arriva, il sortit le trouver avec le professeur d'études religieuses. « Maulana, tu m'exaspères, » dit-il. « Qui es-tu ? Tu es fou. Il faut que tu te fasses soigner. Tu crois que j'entre dans l'école et que je me déshabille ? Quand tu vois un garçon et une fille, tu vois un scandale. Ce sont des élèves. À mon avis, tu devrais aller consulter le docteur Haider Ali. » Docteur Haider Ali est un psychiatre très connu dans notre région. Le moufti se tut. Il ôta son turban et le posa sur les genoux de mon père. Pour nous, un turban est le symbole extérieur de tempérament chevaleresque et de notre condition de pachtoun, et un turban qui tombe est considéré comme une grande humiliation. Puis il reprit « Je n'ai jamais rien dit de tel à ton employé, il ment. » Pour mon père, la coupe était pleine. « Cette école ne te regarde pas, » cria-t-il. « Fiche le camp. » Le moufti n'avait pas réussi à faire fermer notre école, mais ses agissements indiquaient combien notre pays changeait. Mon père se faisait du souci. Ses camarades militants et lui tenaient d'interminables réunions, non seulement pour sauver nos arbres, mais aussi pour mener des actions en faveur de l'éducation et de la démocratie. En 2004, après avoir résisté aux pressions de Washington pendant plus de 2 ans et demi, le général Musharraf envoya l'armée dans une région que nous appelons FATA, Federally Administrated Tribal Areas, zone tribale sous administration fédérale. 7 agences situées le long de la frontière avec l'Afghanistan et sur lesquelles l'État exerçait peu de contrôle. Les Américains affirmèrent que les membres d'Al-Qaïda qui avaient fui l'Afghanistan durant les bombardements américains utilisaient cette région comme refuge en profitant de l'hospitalité pachtoune. De là, ils dirigeaient des camps d'entraînement et lançaient des raids sur les troupes de l'OTAN par-dessus les frontières. Ils étaient si proches de chez nous. L'une des 7 agences tribales, le Bajaour, est voisine du Swat. La population est issue des tribus pachtounes, comme nous, les Yousafzai, qui sont réparties de part et d'autre de la frontière avec l'Afghanistan. Les 7 zones tribales ont été créées par les Britanniques comme zone tampon entre l'Afghanistan et ce qui était jadis l'Inde. Elles en ont conservé les structures et ont à leur tête des chefs de tribus appelés Malik. Malheureusement, ces Malik ne changent pas grand-chose au quotidien des gens ordinaires. En fait, les zones tribales ne sont pas gouvernées du tout. Ce sont des endroits oubliés de tous, des vallées rocailleuses où les gens vivent de contrebande. Le revenu annuel moyen est de $250. La moitié de la moyenne du Pakistan. Il y a peu d'hôpitaux et d'écoles, notamment pour les filles, et les partis politiques n'y sont admis que depuis l'année dernière. Presque aucune femme ne sait lire. Les habitants y sont réputés fiers et indépendants, comme on peut le constater à la lecture des comptes rendus britanniques sur la région. Notre armée, elle, se contentait d'exercer un contrôle indirect, comme l'avaient fait les Britanniques, en maintenant une présence légère, principalement composée de pachtounes, plutôt que sur des soldats réguliers. Y envoyer nos troupes fut une décision difficile. Notre armée avait des liens de longue date avec certains militants d'Al-Qaïda. En outre, cela signifiait que nos hommes allaient se battre contre leurs frères pachtounes. L'armée entra d'abord au sud Waziristan. En mai 2004, comme on pouvait s'y attendre, la popularité locale vécut cela comme une agression contre son mode de vie et se souleva. Tous les hommes de la zone sont armés et des centaines de soldats trouvèrent la mort. L'armée fut sous le choc. Certains refusèrent de se battre, ne voulant pas se dresser contre les leurs. Ils battirent en retraite au bout de 12 jours et atteignirent ce qu'ils appelèrent un accord de paix négocié. Avec des chefs comme Nek Mohammad, l'armée essayait d'acheter la promesse de faire cesser toutes les agressions et d'empêcher l'arrivée de combattants étrangers. Les militants d'Al-Qaïda utilisèrent cet argent pour acheter d'autres armes et reprirent peu à peu leurs activités. Quelques mois plus tard, survint la première attaque au Pakistan d'un drone américain. Le 17 juin 2004, un Predator sans pilote lâcha un missile Hellfire sur Nek Mohammed et dans le sud Waziristan, alors qu'il donnait apparemment une interview par téléphone satellite. Ses hommes et lui furent tués sur le coup. Les gens de la région ne comprirent pas de quoi il s'agissait. Nous ignorions alors que les Américains pouvaient faire ce genre de choses. Quoi que l'on pense de Nek Mohammed, nous n'étions pas en guerre avec les Américains et nous fûmes choqués qu'ils puissent intervenir sur notre sol. La colère gronda au sein des populations des zones tribales. Beaucoup rallièrent des groupes militants ou formèrent les Lashkars ou milices locales. Les attaques redoublèrent. Les Américains disaient que le bras droit de Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, se cachait au Bajaour et s'était marié là-bas. En janvier 2006, un drone censé le viser détruisit 3 maisons et tua 18 personnes dans le village de Damadola. Les Américains expliquèrent qu'il avait dû être informé de leur projet et qu'il avait fui. La même année, le 30 octobre, un autre prédateur américain frappa une madrassa sur une colline près de la ville principale de Kar, faisant 82 morts, principalement des jeunes garçons. Les Américains déclarèrent qu'il s'agissait du camp d'entraînement d'Al-Qaïda qui était montré dans les vidéos du groupe terroriste et que la colline dissimulait un réseau de tunnels et de caches d'armes. Quelques heures après l'attaque, Fakir Muhammad, un Maulvi, un érudit musulman, influent, annonça que les morts seraient vengés par les attentats suicides contre des soldats pakistanais. Mon père et ses amis, inquiets, appelèrent chefs et anciens de la région pour une conférence de la paix. C'était par une nuit glaciale de janvier, mais 150 personnes répondirent présents. « Ça se rapproche, les avertit mon père. Le feu atteint la vallée. Arrêtons les flammes du militantisme avant qu'elles n'arrivent sur nous. » Mais personne n'écouta. Certains se rirent de ces mises en garde, y compris au premier rang le chef local d'un parti. « Monsieur Khan, lui dit mon père, vous savez ce qui est arrivé aux Afghans. Les réfugiés vivent désormais chez nous. À présent, il se passe la même chose au Bajaour. Et cela va nous arriver à notre tour. Notez bien ce que je vous dis, car nous n'aurons aucun refuge, aucun endroit où émigrer. » Mais l'homme le toisa avec une expression moqueuse. « Regardez cet homme, semblait-il dire de mon père. Je suis un Khan. Qui oserait me chasser de cette région ? » Mon père rentra chez nous en proie à une vive contrariété. « J'ai une école, mais je ne suis ni un camp, ni un chef politique. Je n'ai pas de tribune. Je ne suis qu'un homme seul. » Voilà comment se termine l'histoire du moufti qui tenta de fermer l'école du père de Malala. Je vous remercie de votre écoute. Nous retrouverons encore une fois ou deux Malala, sa famille, son pays et Londres. Merci de votre patience. À bientôt.